Bienvenue dans Le Débat. Aujourd'hui, nous plongeons dans une des métamorphoses électorales les plus fascinantes de l'histoire politique récente.
Ouais, l'élection présidentielle équatorienne du 11 avril 2021.
Exactement. Et la question centrale qu'on se pose face à cette victoire vraiment inattendue de Guillermo Lasso contre Andrés Arauz, c'est de savoir si on a assisté à une brillante réinvention stratégique de Lasso ou bien
simplement à un vote de rejet massif. Un rejet viscéral de l'héritage de Rafael Correa dans un pays qui était complètement à bout de souffle.
C'est ça. Moi, je défends l'idée que Lasso a orchestré cette coalition improbable avec une habileté politique redoutable.
Et je soutiens l'inverse. C'est une victoire purement circonstancielle, gagnée par défaut. Les Équatoriens n'ont pas voté pour le programme de Lasso, ils ont voté contre le retour d'un système.
Alors, pour bien comprendre ce qui s'est passé, il faut se rappeler des échecs de Lasso en 2013 et 2017. C'était un ancien banquier de 66 ans, très ancré à la droite dure. Et là, en 2021, il a tout changé.
Il a mis des baskets rouges, oui.
Ce n'est pas juste une question d'optique ou d'avoir investi TikTok. Hein. La vraie mécanique politique, c'est qu'il a su adoucir son image juste assez pour devenir acceptable pour l'électorat progressiste. En s'ouvrant sur l'écologie ou les droits des femmes, il a conquis une gauche qui semblait inaccessible, tout ça sans perdre sa base conservatrice.
Je ne dirais pas qu'il a conquis la gauche. Enfin, ce n'est pas de la séduction idéologique. C'est de l'opportunisme face à un rejet profond. Si la gauche progressiste a voté pour lui, c'est par pur ressentiment envers l'autre camp.
Vous pensez au mouvement indigène ?
Absolument, la puissante CONAE. Ils ont catégoriquement refusé de soutenir Arauz parce qu'il incarnait le retour de l'ancien président Correa. Et il faut comprendre pourquoi. Pendant 10 ans, la prétendue gauche de Correa a mené une politique extractiviste féroce.
Oui, avec des forages en Amazonie.
Voilà, au mépris total des droits territoriaux indigènes. Tout en réprimant leur leader. La trahison était beaucoup trop profonde. Donc Lasso n'a rien conquis du tout, il a simplement récolté les fruits de cette fracture historique.
Il les a récoltés, oui, mais avec une marge de 52% des voix contre 47%. C'est une victoire nette dans un pays hyper polarisé. N'est-ce pas la définition même du génie politique que d'avoir su capter les voix du candidat indigène Yacu Pérez, tout en rassurant les milieux d'affaires? C'est un vrai funambulisme politique.
Regardons justement le prix de ce funambulisme. À force de faire des clins d'œil contradictoires pour assembler un front purement anti-Coréa, il se retrouve avec une coquille vide au niveau institutionnel.
L'Assemblée est très divisée, c'est vrai.
C'est le moins qu'on puisse dire. Son parti, Creo, n'a obtenu que 12 sièges sur 137 à l'Assemblée nationale. 12 sièges. C'est la preuve mathématique que son mandat est une illusion. Il n'a aucune adhésion à son programme libéral. Pour voter le moindre budget, il doit marchander en permanence avec Pachakutik ou la gauche démocratique. Comment vous voulez gouverner comme ça ?
Mais cette fragmentation est peut-être exactement ce dont l'Équateur avait besoin. Après une décennie où le rouleau compresseur coréiste imposait ses lois sans débat, cette assemblée divisée force le consensus. C'est une institutionnalisation vitale du compromis.
Le compromis ?
Oui. Et d'ailleurs, cette stratégie d'apaisement a permis une chose rarissime, une transition pacifique. Arauz a concédé la défaite le soir même, sans crier à la fraude. Ça a évité à un pays déjà sous tension de s'embraser.
Apaiser le pays, ouais. Mais seulement en apparence. La réalité de ce prétendu consensus, c'est une paralysie immédiate face à des impasses structurelles mortelles. Prenons l'économie. Lasso hérite d'une dette publique explosive liée aux accords avec le FMI de 2019.
Des accords qui avaient provoqué des manifestations monstres.
Exactement. Et Lasso promet une thérapie de choc pour relancer l'investissement. Mais avec 12 députés, c'est une mission impossible.
L'équation économique est redoutable, je vous l'accorde. D'autant que le pays sortait à peine du traumatisme de la pandémie. Les images des morgues débordées de Guayaquil en 2020, ça a laissé des cicatrices profondes.
Et la crise s'étend bien au-delà de l'économie. L'État a littéralement perdu le contrôle de pans entiers de son système carcéral. Les prisons sont devenues les bases opérationnelles des cartels mexicains et colombiens.
C'est une situation tragique.
Et ce n'est pas avec une campagne TikTok réussie qu'on désarme un cartel de narcotrafiquants. Gagner sur le simple rejet d'un adversaire ne donne ni les moyens institutionnels ni la légitimité populaire pour imposer des mesures d'urgence.
Nous touchons ici au cœur de notre divergence. Je reste persuadée que la campagne de Lasso demeurera un cas d'école fascinant. Il a prouvé qu'en brisant ses propres dogmes politiques, on peut déjouer les pronostics, créer une coalition improbable et redessiner la carte électorale d'une nation.
Et pour moi, ce cas d'école illustre plutôt le piège du populisme par la négative. On peut tout à fait remporter le pouvoir parce que le public est désespéré, sans pour autant obtenir la force politique nécessaire pour gouverner.
Nous sommes au moins d'accord sur une chose. Ce vote pour le changement exprimé par les Équatoriens n'est qu'un point de départ extrêmement fragile.
Très fragile face à une réalité institutionnelle implacable.
À vous qui nous écoutez de vous forger votre propre opinion. Merci d'avoir suivi cette analyse. Il y a encore beaucoup à explorer sur ces dynamiques politiques.